VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Nouakchott, 18h à Brazzaville, bienvenue à notre journal. À RDC, week-end d'affrontement dans le Kasaï occidental, province du centre-sud du pays. Au moins 23 personnes ont été tuées dans les affrontements dans la région de Tchikapa. Claire Morin-Gibault.
Le calme est revenu ce lundi matin après des violences qui ont opposé une milice locale aux forces de sécurité de la région. Les affrontements meurtriers ont été déclenchés par un conflit de succession entre un nouveau chef traditionnel et son oncle, l'ancien chef coutumier Mbaou Kanka, déchu après avoir été désavoué par sa famille. Furieux, celui-ci a rassemblé ses partisans contre ceux de Kwamina Sapou, autre chef traditionnel tué en août dans la province voisine du Kasaï central. Le fait que les partisans du chef Baou aient combattu avec les mêmes bandeaux rouges autour de la tête et les mêmes bâtons a semé la confusion au départ. Hubert Bingonvula, vice-gouverneur de la province du Kasaï, affirme qu'il y a eu 13 morts dans les rangs des forces de l'ordre, 10 morts du côté de la milice, ajoutant que l'ordre public a été rétabli.
Politique au Gabon, la présentation du rapport final des observateurs de l'Union européenne sur l'élection présidentielle gabonaise prévue en principe ce mercredi a été reportée à la demande des autorités, a indiqué aujourd'hui la délégation de l'Union européenne au Gabon. La date qui nous a été proposée est le 12 décembre, a souligné la délégation de l'Union européenne à Libreville dans un message à la presse en promettant de confirmer l'information dès que possible. L'Union européenne avait évoqué des anomalies pendant l'élection dans un pré-rapport présenté en septembre juste après le scrutin à tour unique du 27 août, remporté officiellement par le président Bongo avec 50,66% des voix contre 47,24% pour le leader d'opposition Jean Ping. Mais M. Ping conteste ces résultats et se proclame le président élu du Gabon. Le leader d'opposition a promis de s'adresser solennellement au peuple gabonais après la publication de ce rapport. En Afrique du Sud, le principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique, a porté plainte en justice ce lundi contre la décision du gouvernement sud-africain de se retirer de la Cour pénale internationale, la CPI, en affirmant que l'exécutif avait usurpé les pouvoirs du Parlement. Pretoria a annoncé en octobre, rappelons-le, son retrait de la CPI après la polémique causée par son refus d'arrêter en 2015 sur son sol le président soudanais Omar al-Béchir, poursuivi pour génocide, crime contre l'humanité et crime de guerre. D'où la requête de l'Alliance démocratique aujourd'hui exhortant la haute cour de Pretoria d'annuler la décision de retrait. Le parti d'opposition estime que le gouvernement sud-africain a sapé l'autorité du Parlement qui avait ratifié la décision de rejoindre la CPI en 1998. L'audience doit se poursuivre demain mardi. Le retrait de Pretoria prendra effet en octobre 2017. L'Afrique du Sud pourrait devenir ainsi le premier pays à se retirer de la CPI. Afrique de l'Ouest maintenant, le Ghana doit élire mercredi son nouveau président. Les deux principaux candidats, le président sortant John Mahama et le leader d'opposition Nana Akufo-Addo, s'affrontent dans un climat plus tendu que d'habitude. Anastasie Toudiech.
Nana Akufo-Addo, 72 ans, est le candidat de l'opposition. Il joue sa troisième et peut-être dernière chance d'accéder à la fonction suprême. Il a accusé le parti au pouvoir d'encourager les violences et critique la mauvaise gestion du pays, exportateur d'or, de cacao et de pétrole, mais fortement endetté. Face à lui, le président sortant John Mahama, à la tête du pays depuis 2012, bat campagne sur des projets de nouvelles infrastructures et a promis d'éradiquer la corruption pendant son second mandat. Des violences sporadiques menées par des gangs surnommés les Macho Men pourraient éclater dans certaines régions. Si aucun candidat n'obtient plus de 50% des voix mercredi, le Ghana devra procéder à un second tour courant décembre.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Sommet de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. À l'ouverture du forum de Dakar ce lundi, le président sénégalais Macky Sall et le ministre français de la Défense Jean-Yves Le Drian ont insisté sur la nécessité d'équiper les armées africaines et de renforcer les moyens des forces de maintien de la paix pour faire face à la menace terroriste. Mais le chef de l'État sénégalais a aussi mis l'accent sur la préservation de la tolérance, notamment sur le plan religieux. Les explications du professeur Djibi Diarraté, sociologue, joint à Dakar par Abdourahmane Dia.
Parce qu'en fait, le Sénégal a toujours joué un rôle important au niveau de la sous-région et au niveau mondial en termes de pacification et en termes de maintien des grands équilibres. Depuis le président Léopold Sédar Senghor jusqu'au président Macky Sall, en passant par le président Abdou Diouf et le président Ablaye Wade, des efforts ont toujours été déployés au niveau déjà de la CEDEAO, donc à un espace sous-régional, au niveau de l'Union africaine à un niveau continental et au niveau des plus grandes instances mondiales, l'UNESCO, etc. Le Sénégal a toujours joué un rôle important pour maintenir les grands équilibres à partir du principe culturel qu'il est possible de faire en sorte que l'homme respecte son prochain, que les sociétés se respectent mutuellement, qu'il est possible que l'on aille vers cette conception-là qui voudrait que ce qui fait la beauté d'un tapis, que ça soit la variété de ses couleurs, que l'on respecte la différence. Ça, c'est un principe culturel fort auquel les Sénégalais sont attachés. C'est justement cette propension à la paix, cette propension au respect, cette propension à la tolérance.
Le professeur Djibi Diarraté, sociologue, joint à Dakar, au Sénégal. Libye, reprise totale de Sirte par le gouvernement d'Union nationale à l'issue de combats meurtriers. Les forces pro-gouvernementales ont perdu près de 700 hommes. Les djihadistes du groupe État islamique, dont le nombre de morts n'est pas connu, avaient conquis la ville en juin 2015. Eric Maniracusa.
Effondrement total des djihadistes, a dit le porte-parole de l'opération militaire qui a annoncé le retour de la ville de Sirte dans le giron de l'État. Des dizaines de combattants se sont rendus, a-t-il précisé. Débutée le 12 mai, la bataille de Sirte a été rude face à des djihadistes déterminés à défendre farouchement leur position jusqu'au dernier mètre carré. Cette victoire renforce le gouvernement qui peine depuis son installation fin mars à Tripoli à asseoir son autorité. En revanche, elle ne sonne pas la fin de la présence d'un groupe djihadiste en Libye. Des combattants islamistes ont quitté Sirte et ont migré vers le sud, dans la zone dite « Triangle du Salvador », à la frontière avec l'Algérie et le Niger, un lieu de contrebande d'armes.
Politique aux États-Unis maintenant, le président élu Donald Trump a nommé aujourd'hui son ancien rival au primaire, le docteur noir américain Ben Carson, au poste de ministre du Logement et de l'Urbanisme dans son futur gouvernement. Le docteur Carson a été un des premiers adversaires du milliardaire à se rallier à sa cause pendant la campagne présidentielle. Par ailleurs, Donald Trump a encore fait froncer les sourcils, cette fois à cause d'une conversation téléphonique avec la présidente de Taïwan, en raison du fait que les États-Unis ne reconnaissent officiellement qu'une seule Chine, celle de Pékin. Washington n'entretient en effet aucun lien diplomatique avec Taïwan depuis 1979. Jean-Roger Bion.
Les médias n'ont pas attendu longtemps pour souligner la portée diplomatiquement dangereuse d'une telle démarche, faisant remarquer que depuis des décennies, le gouvernement américain ne reconnaît que la Chine communiste. L'équipe de Donald Trump a pourtant minimisé l'importance de la conversation téléphonique du président élu avec la chef d'État taïwanaise Tsai Ing-wen. C'était un appel de courtoisie, a déclaré le vice-président élu Mike Pence hier au programme télévisé ABC This Week. C'est un peu mystérieux de voir que le président Obama puisse rencontrer un dictateur assassin à Cuba l'année dernière et être salué comme un héros pour l'avoir fait. Et quand le président élu Donald Trump reçoit un appel de courtoisie du dirigeant démocratiquement élu de Taïwan, cela donne lieu à une controverse. Mike Pence admet néanmoins que Donald Trump a l'intention d'adopter une position plus ferme envers la Chine sur le commerce et d'autres questions. Il va se battre pour les emplois des Américains et nous allons cesser de perdre face à la Chine et à d'autres pays, a déclaré le vice-président élu. Jusqu'à présent, la réaction chinoise à l'entretien téléphonique entre Trump et la présidente de Taïwan a été plutôt modéré. C'était juste un coup médiatique de Taïwan, a déclaré le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi. Cela ne changera pas le fondement international de la politique d'une seule Chine que les États-Unis ont respecté depuis des années, a-t-il ajouté. Bien qu'il n'y ait pas de relations diplomatiques entre les États-Unis et Taïwan, les deux ont coopéré sur le plan militaire pendant des décennies. Le grand mystère, c'est ce que pourrait faire Donald Trump une fois aux commandes à la Maison-Blanche.
Et pour terminer, conflit en Syrie, les forces pro-gouvernementales syriennes se rapprochent de leur objectif de reprendre le contrôle de la totalité d'Alep, la deuxième ville du pays. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit voter aujourd'hui à New York sur une résolution demandant une trêve d'au moins 7 jours à Alep et un accès humanitaire aux habitants de la ville prise au piège des combats. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.